je vais continuer avec vous ce second moment, la seconde faute. Il faut essayer de ponctuer pour essayer de découvrir ce que la sagesse de Dieu veut nous enseigner par là. La première faute, c'est donc la brisure à l'égard de la contemplation. Dans l'Éden, Adam et Ève étaient des contemplatifs en raison de la grâce de justice originelle. La seconde faute est la brisure des liens de la charité fraternelle, la jalousie. La jalousie brise l'unité que la charité fraternelle réalise. Et c'est à l'égard d'une activité religieuse, l'offrande des prémices, d'une activité religieuse impliquant l'adoration, impliquant l'action de grâce, que se réalise cette brisure à cause de la jalousie, jalousie fraternelle et religieuse. Et cette jalousie, elle est née, si je suis attentif au texte, c'est pas dit directement, hein. C'est narratif, il faut essayer de comprendre ce qui est sous-jacent. Cette jalousie provient du fait que Caïn louche. Il a un regard sur Dieu, il fait les mêmes gestes qu'Abel. Et c'est très curieux, c'est de voir que de fait, on retrouve à l'égard de Caïn le même reproche que Dieu fera vis-à-vis du peuple d'Israël. Dieu a horreur du sang des taureaux et des boucs. Pourquoi ? Parce que les gestes liturgiques doivent correspondre aux intentions profondes du cœur. Et quand les gestes liturgiques ne correspondent pas aux intentions profondes du cœur, il y a à ce moment-là un mensonge. Il y a un mensonge à l'égard de Dieu. Et c'est la chose la plus terrible, la chose la plus horrible. Le moment où on devrait être vrai, la vérité pratique dans notre vie est premièrement dans l'adoration. C'est par l'adoration que nous sommes vrais, parce que nous reconnaissons notre dépendance totale à l'égard de Dieu, et en même temps nous reconnaissons notre autonomie. Autonomie et dépendance se lient dans l'adoration, parce que l'adoration reconnaît cette dépendance, et l'adoration implique un acte libre de volonté. Donc, c'est à ce moment-là où on devrait être le plus vrai. Vérité intérieure dans l'adoration intérieure, vérité qui se manifeste et qui se symbolise à travers le geste liturgique, l'offrande des fruits de la terre ou l'offrande des prémices du troupeau. C'est pour ça que la liturgie réclame une telle vérité. C'est peut-être ce qui est le plus affreux, c'est quand la liturgie n'est plus vraie. Ce qui blesse le plus Dieu. C'est important de voir le point de départ de la liturgie. Elle est là, le point de départ de la liturgie, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas à l'égard d'Adam et Ève, c'est à l'égard de Caïn et Abel. Et c'est à l'égard de la liturgie qu'on voit la première division. Tout le monde sait très bien, c'est très difficile d'être un dans la liturgie, alors que ça devrait faire l'unité. Mon vieil oncle, père Duhaut, me disait toujours, attention quand on prêche chez les bénédictins de ne pas parler de liturgie, parce qu'on est sûr d'emblée qu'il y en aura la moitié qui seront pour et la moitié qui seront contre. Alors il ne faut pas diviser. Et je crois que c'est très vrai, c'est très très difficile de maintenir une unité dans la liturgie. C'est très très difficile parce que nous avons tous un tout petit peu nos petites opinions. Et c'est difficile de supprimer complètement tous les a priori. Et quand on est 4 ou 5, ça va, parce qu'on s'est choisi. Mais quand on ne se choisit plus, quand on est 80, vous comprenez bien, ça met du temps avant de se choisir. Hein. Alors à ce moment-là, il faut que l'unité liturgique soit relativisée par l'adoration intérieure et la contemplation, pour qu'on comprenne qu'au fond, c'est secondaire. La chose essentielle, c'est l'adoration et la contemplation. C'est très important la manifestation pour le peuple de Dieu. Et au fond, on doit toujours opter pour le peuple de Dieu dans la liturgie. Qu'est-ce qui peut faire le plus de bien? Qu'est-ce qui peut aider le plus les autres? Et la communauté aussi. Parce que les autres, c'est la communauté, hein. C'est pas seulement ceux qui assistent par derrière. C'est la première chose, ce sont nos frères qui vivent le même mystère que nous. Alors on doit toujours opter pour ce qui fait le plus de bien, ce qui aide le plus à la prière, étant donné que toute prière extérieure est ordonnée à la prière intérieure. Il faut que la prière liturgique conduise à l'adoration et à la contemplation. Et il faut que l'adoration et la contemplation portent la prière liturgique. Alors c'est extraordinaire de voir ce premier moment de la prière liturgique chez deux frères, Caïn et Abel. Ils devraient quand même s'entendre, parce qu'ils ne sont pas très loin de la souche originelle. Et alors, n'étant pas très loin de la souche originelle, ils devraient quand même s'entendre. Eh bien, on voit tout de suite qu'en raison du travail qu'ils ont fait, le berger et le laboureur, ce qui représente une division du travail, eh bien, qu'on voit tous les deux sont d'accord pour offrir les prémices, mais l'un le fait avec un grand amour, de sorte que son geste est vrai. Et parce que son geste est vrai, il ne pense qu'à Dieu. Quand on adore, on est reclus en Dieu. Quand on adore, on est tout entier caché en Dieu. C'est le sens de la clôture, vous voyez. La clôture première, c'est l'adoration. On devient terre sainte quand on adore, terre sacrée, parce qu'on est relié directement à Dieu. Alors on est vraiment à ce moment-là celui qui est sous la garde de Dieu. Vous voyez, les vieilles choses très anciennes qu'on voit encore dans certaines églises d'Espagne, hein, où les cathédrales sont entourées de petites colonnes, pour nous montrer les lieux qui étaient des lieux sacrés. On n'avait plus le droit de poursuivre le criminel là. C'est très commode, hein. On se mettait dans un lieu sacré. On n'a pas le droit de poursuivre un criminel dans une église, un lieu sacré. Anciennement, quand on respectait ce qu'on représentait, un lieu sacré. Parce qu'on était sous la protection de Dieu. On adorait. Quand on adore, on échappe à l'emprise de la communauté humaine, on échappe à l'emprise du monde, et on est terre sainte. On dépend directement de Dieu. C'est ça la grandeur de l'adoration. Et c'est ça qui nous met dans la vérité. Parce qu'on comprend qu'il y a dans l'homme quelque chose de sacré. L'homme n'est pas seulement profane. Hein. Il y a quelque chose de sacré dans l'homme. Parce qu'il est directement créé par Dieu et il peut remonter directement vers Dieu. Abel, quand il adore et quand il fait ses gestes de culte, son holocauste est l'action de grâce, Abel est totalement reclus en Dieu. Il n'a plus que cette dépendance à l'égard de Dieu. Il ne dépend plus de son frère aîné. Quand on adore, on ne dépend que de Dieu. Et on dépend directement de Dieu, tout homme, n'importe lequel. Qu'il soit esclave, qu'il soit libre, qu'il soit capitaine ou qu'il soit quelqu'un qui a une grosse autorité dans le domaine civil, ça n'a aucune espèce d'importance. On est directement relié à Dieu. Tandis qu'un, il fait les mêmes gestes à l'extérieur, mais son cœur n'est pas à l'unisson. Pourquoi ? Parce que il pense avoir des droits sur son cadet. Je crois que c'est ce manque de pauvreté. En tant qu'aîné, les droits d'aînesse, hein, les droits d'aînesse, c'est très inscrit dans l'Écriture, hein, sont des droits naturels. L'aîné pense toujours avoir des droits sur son petit, second, sauf dans la communauté Saint-Jean, n'est-ce pas? Mais autrement, ils se croient toujours avoir des droits sur celui qui vient après. Non. Quand on se donne à Dieu, l'aîné n'a plus aucun droit. Il ne peut pas avoir de droit. C'est faux. Parce qu'on est donné directement à Dieu. Et on entre dans cette relation d'éternité, au-delà de la succession du temps. Caïn, lui, adore en pensant qu'il a des droits sur Abel. Et c'est pour ça qu'il a un œil sur Dieu et un œil sur Abel. Il est curieux. Et parce qu'il croit avoir des droits sur Abel et qu'il voit qu'Abel lui échappe complètement. Et que non seulement Abel lui échappe complètement, mais que Dieu semble, jugeant selon les apparences, que Dieu semble être beaucoup plus attentif à Abel qu'à lui, la jalousie naît. Au fond, Caïn n'adore pas vraiment dans son cœur. Et c'est pour ça que les gestes liturgiques sont pour lui occasion d'une plus grande jalousie. Parce qu'il est déjà dans un état de mensonge. Les gestes liturgiques ne nous préservent pas de la tentation quand notre cœur est loin de Dieu. C'est l'adoration intérieure qui nous relie directement à Dieu. Ce n'est pas les gestes extérieurs. Les gestes extérieurs, quand ils expriment ce que nous portons en nous, alors ça devient très beau, ça devient très grand. Ça constitue une communauté religieuse. Vous voyez, si Caïn avait vraiment adoré à l'unisson de son frère Abel, et s'il n'avait regardé que Dieu, il aurait eu la première communauté religieuse. Et la première communauté religieuse aurait été avec Caïn et Abel. Et bien là, nous voyons qu'au contraire, il y a une brisure qui se fait. Et une brisure telle qu'elle conduit au fratricide. Donc une brisure radicale. Parce que la jalousie porte sur l'attitude religieuse. Vous voyez, quand c'est une petite jalousie, on est jaloux parce que celui qui est à côté de nous, je ne sais pas, il a l'air d'être plus heureux que nous. Il a l'air d'être plus reposé que nous. Il a l'air d'avoir telle ou telle qualité, il comprend plus vite. Il a l'air de tout saisir au cours de métaphysique, tandis que moi je ne saisis rien du tout. C'est pas permis quand même ça. Et puis il est plus jeune, c'est invraisemblable. Alors ces petites jalousies, pas terrible si on est attentif à ne pas laisser la contamination. Mais quand la jalousie porte sur un domaine religieux, sur le domaine de l'adoration, c'est beaucoup pire, c'est pire, hein, ça va plus loin. Parce que c'est ce qu'il y a de plus profond dans notre âme, notre lien avec Dieu dans l'adoration. C'est ce qu'il y a de plus profond. Alors ça fait qu'à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de reprise. On est vraiment isolé de Dieu parce qu'on est dans le mensonge et on n'a plus aucun lien fraternel. Et alors on est à ce moment-là capable de toutes les bêtises. Et c'est ce qui se passe. Remarquez aussi que c'est Caïn qui a pris l'initiative. Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas tapis à la porte? Vers toi va son désir, mais à toi de dominer sur lui. Caïn dit à Abel, son frère, « Allons dehors !» Vous voyez l'exécution, hein? C'est lui qui prend l'initiative. « Allons dehors », c'est-à-dire « Allons un peu plus loin. » En dehors du lieu où nous avons adoré. Mais remarquez, et ceci c'est important, étant donné qu'il faut progressivement arriver à une théologie de la tentation. Alors, regardez ces deux premières tentations. Nous essaierons de voir ça progressivement. Parce que je crois que c'est très important. Dans une théologie mystique, il y a toute une théologie de la tentation qu'il faut faire. La théologie de la tentation, premièrement, elle provient de l'interrogation. Il y a des interrogations qui sont bonnes et des interrogations qui sont des interrogations qui tentent. Le démon ne connaît pas les secrets de notre cœur. Et le démon veut les connaître. Alors, il nous induit en tentation, il nous interroge. pour que nous fassions attention à lui et que nous lui répondions et que nous lui livrions les secrets profonds de notre cœur. Le démon agit de l'extérieur, il interroge. Ici, le démon agit de l'intérieur. C'est montré ici. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas tapis à la porte? Vers toi va son désir, mais à toi de dominer sur lui. Donc, c'est Dieu qui nous fait comprendre ce que c'est que cette tentation. Caïn ne l'a pas saisi tout de suite. Vous voyez, il y a des tentations que nous saisissons tout de suite. Nous voyons bien que c'est l'autre qui nous tente. Et puis, il y a des tentations qui sont cachées, au plus intime de nous-mêmes, dans notre imaginaire. C'est le serpent qui prend la couleur du terrain sur lequel il agit. Alors, la bête est tapie à la porte. C'est très très joli de voir ça. C'est donc de l'intérieur, c'est plus de l'extérieur. Et psychologiquement, vous ne pouvez pas saisir que c'est une tentation. Parce que ça provient de vous. C'est la conséquence du péché. Le premier péché ne pouvait pas provenir de cette manière-là. Le premier péché provenait nécessairement d'une tentation de l'extérieur, puisque Ève et Adam étaient purs. Ils étaient innocents. Caïn n'est pas innocent. Abel n'est pas innocent, puisqu'ils sont nés dans le péché. Donc, il y a les conséquences du péché. Ils ont peut-être fait un acte d'amour, et au fond, Abel, en faisant cet acte d'adoration, purifiait son cœur de toutes ses fautes. Mais les conséquences du péché demeurent. Et on voit bien la conséquence du péché. Elle est du côté de l'imaginaire, la bête est tapie. Le démon tout de suite se sert de l'imaginaire pour nous tenter. Et nous avons beaucoup de peine à ce moment-là de discerner la tentation parce que ça semble venir de nous. Et il faut que ce soit Dieu lui-même qui éclaire. Alors qu'il n'avait pas besoin d'éclairer Ève. Ici, il doit éclairer Caïn, par miséricorde du reste. On doit demander conseil quand on est dans un état trouble, on ne sait plus très bien. Et c'est souvent celui qui est de l'extérieur qui est clair et qui fait le discernement. Et il est souvent le seul à pouvoir faire le discernement. Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas? Vous voyez, c'est Dieu qui interroge, c'est très très joli, voilà, ces interrogations de Dieu. Mais si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas tapis à la porte? Attention! Cette tristesse, cette colère, c'est peut-être quelque chose qui déjà montre que tu n'as pas la bonne volonté qu'il faut avoir. Le péché n'est-il pas tapis à la porte? Vers toi va son désir, mais à toi de dominer sur lui. Et donc Dieu indique que Caïn a la grâce de lutter. Il a la grâce de lutter contre cette tentation. Ce n'est pas du tout le fatalisme, hein. C'est pas du tout dire, voyez, hein, les conséquences du péché font que nécessairement, ça va conduire jusque-là, pas du tout. Il est libre. Et c'est Dieu qui lui rappelle lui-même qu'il est libre. Mais à toi de dominer sur lui. Et Caïn n'écoute pas. Alors nous avons ce récit, donc, du fratricide. Yahvé dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Il a péché à cause du droit d'aînesse. Et quand il a fait disparaître son frère, il se déclare comme n'ayant aucune autorité sur lui. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez le mensonge qui s'introduit tout de suite, hein ? Tout de suite. La conséquence du premier péché, c'était le manque de responsabilité. C'est l'autre. Et on jette la responsabilité sur l'autre. La conséquence de la seconde faute, c'est de se considérer comme irresponsable. C'est encore pire, hein ? Ça va plus loin, ça va plus loin. L'irresponsabilité va plus grande. C'est important pour nous de bien voir ça. Parce que c'est la destruction, vous voyez, des liens de l'amour. La responsabilité provient de l'amour. Quand il n'y a plus aucun amour, il n'y a plus aucune responsabilité. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ? Il y a dû avoir un petit moment de silence hein, entre les deux. Je ne sais pas, la mauvaise humeur. On répond non, tout de suite, spontanément. Suis-je le gardien de mon frère, moi ? Il avait dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie vers toi, crie vers moi du sol. Alors là, il y a quelque chose de très grand et important à souligner. C'est la première fois que le sang apparaît. Alors, il y a un leitmotiv du sang. Ça, on ne peut pas nier à travers toute l'écriture. Alors, c'est important de voir ici la voix du sang de ton frère. C'est le sang répandu, c'est le sang de l'innocent qui crie vers Dieu. C'est le sang de l'innocent. C'est celui qui porte l'injustice. Alors, la voix du sang. La voix, selon Saint Jean, c'est l'Esprit Saint. Selon l'évangile de Jean, on doit distinguer la parole, le verbe et la voix. J'ai parfaitement le droit, hein, puisque l'écriture a une unité comme auteur, c'est l'Esprit Saint, l'auteur principal, j'ai le droit d'éclairer ce qui est au point de départ, enfin ce qui est au terme. C'est très important de voir la voix. La voix du sang de ton frère. La voix est liée à l'Esprit Saint. La parole est liée toujours au Verbe de Dieu. Et c'est l'expression, la communication de ce que nous portons dedans de nous-mêmes. Alors, ce n'est pas une vengeance, vous comprenez ? Ce n'est pas une vengeance. Comme si Abel voulait se venger et demander à Dieu de le venger. Ce serait contraire à ce que représente l'amour et la miséricorde et le pardon. Abel a pardonné à Caïn, ça c'est sûr. Vous pourriez dire, ah oui, mais là on est tout à fait dans l'âge primitif, alors on est devant la vendetta corse, hein, c'est tout à fait ça. C'est vieux, hein. Très ancien. Et alors on voit très bien cette espèce de voix du sang. C'est vrai ça, on peut interpréter ça comme ça. On peut interpréter ça comme ça. Il y a quelque chose de juste au niveau purement psychologique et au niveau purement humain. Mais je ne peux pas l'interpréter comme ça, au point de vue divin, je ne peux pas. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est Dieu qui est le gardien de l'innocent. C'est Dieu qui est le maître de la vie. C'est la première fois où l'homme a voulu dominer en supprimant la vie. Et dominer dans son orgueil de jaloux qui n'accepte pas que l'autre passe devant. Alors, c'est Dieu qui est le gardien. Caïn aurait dû être le gardien de son frère, puisqu'il est l'aîné. Et s'il n'est plus le gardien de son frère, c'est Dieu. Et donc, Dieu lui-même est blessé par ce meurtre. Cette faute ne regarde qu'Abel, mais en regardant Abel, elle atteint Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Les fautes contre la charité fraternelle atteignent Dieu. Il n'y a pas que la faute d'orgueil. Toute faute grave atteint Dieu. Toute brisure à la charité fraternelle atteint Dieu. Et c'est cela, je crois, qui nous est montré. La voix du sang de ton frère crie vers moi du sol. C'est qu'il y a eu de fait une faute grave. Une brisure du côté de la charité fraternelle. Et alors on veut exprimer que ça touche Dieu. Et pour exprimer ça dans un symbolisme très fort, très réaliste, c'est la voix du sang de ton frère qui crie vers moi du sol. Le sol ne peut pas crier. Et le sol crie, parce que c'est lui qui a reçu le sang. Je crois que c'est cela qui nous est montré. Et que par le fait même, c'est Dieu lui-même qui va faire comprendre à Caïn la gravité de son crime. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol, qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Pensez à cet autre passage où la terre vint au service de la femme. Et elle ouvre sa, la terre ouvre, s'ouvre, elle ouvre sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. C'est juste l'inverse. Mais il y a deux passages qui sont parallèles, c'est mystérieux ça. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol. Caïn n'a pas respecté l'autre. Il a brisé. Il a été jusqu'au bout. Il n'a pas respecté le vivant. Alors, il y a comme une malédiction qui se fait. Et une malédiction de par le sol. Qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Comme si la terre garderait cette opposition, garderait cette vengeance contre Caïn. Alors je crois qu'il faut le comprendre, comme vous le disiez, c'est que le péché touche vraiment Dieu. Et Dieu va se servir de la terre pour punir Caïn. Dieu se sert de notre univers pour nous punir. Et c'est encore une miséricorde de Dieu, cela. C'est même une grande miséricorde de Dieu. C'est de faire que le sol sur lequel on est, Dieu s'en sert pour nous faire comprendre que nous avons mal agi. Nous le comprenons mieux parce que c'est sensible. Vous voyez, c'est la réalité des sacrements, ça. Mais c'est l'inverse. Mais c'est la première réalité. Dieu communique sa grâce par des signes sensibles. Dieu communique sa grâce en se servant des éléments. Comme dira saint Augustin. Verbum ad elementum fit sacramentum. Eh bien, c'est vrai, le sacrement, c'est la parole liée à l'élément. L'élément, c'est la terre. Et Dieu se sert de la terre pour nous sanctifier. Et Dieu se sert de la terre pour punir Adam. Dieu se sert de la terre pour pour punir Caïn, pour que Caïn comprenne la gravité de son crime, pour que Caïn connaisse ce que représente cette brisure de la charité fraternelle. Si on brise la charité fraternelle, on est seul. L'isolement. Et pour que Caïn comprenne parfaitement cet isolement, Dieu se sert de la terre. Il y aura comme une espèce d'inimitié, une opposition de la terre vis-à-vis de Caïn, qui connaît parfaitement ce que c'est que la terre, puisqu'il est laboureur. C'est donc dans son travail. Vous voyez que la première malédiction, la première punition, était le travail pénible. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et la seconde punition, puisque la première ne suffit pas, c'est la stérilité dans le travail, l'inefficacité dans le travail. Et ça, c'est la conséquence directe de la rupture de la charité fraternelle. Un travail où on ne respecte pas ses frères, où on ne coopère pas avec eux, eh bien, il y a immédiatement, à travers le travail, l'inefficacité. C'est très important de saisir ça, parce que ça doit nous aider à comprendre comment nous devons travailler. Vous voyez, dans une coopération. Et c'est vrai que quand on s'isole et qu'on ne respecte pas assez l'eau dans le travail, qu'on ne coopère pas assez, tout simplement, parce qu'il manque d'amour, il manque de confiance, et qu'on s'isole et qu'on veut faire tout seul, et bien quand on veut faire tout seul, et bien le travail lui-même sera stérile. Parce qu'il y aura la malédiction. C'est je crois cela que nous devons saisir. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol. C'est le sol qui le maudit, qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Comme si le sol, vous voyez, était personnifié. Alors, au point de vue poétique, on pourrait très bien dire, c'est très poétique ça. Hein. Mais attention, hein, quand Dieu est poétique, c'est pas uniquement un poète. C'est le symbolisme divin. Le symbolisme divin implique une efficacité que nous devons saisir. Et si donc Dieu personnifie le sol, c'est parce que Dieu se sert du sol pour faire comprendre à Caïn sa faute. Maintenant donc, maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa vigueur. Il y aura donc la famine, conséquence, la stérilité du travail, l'inefficacité du travail. C'est une conséquence de la jalousie. C'est une conséquence de l'homicide. C'est une conséquence de la brisure de la charité fraternelle. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. Tu avais un compagnon, tu ne l'as pas voulu, et bien maintenant tu seras errant et fugitif. On ne peut plus s'enraciner. Vous voyez, l'inverse, le verbe est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous. Juste l'inverse de celui qui est errant. Errant et fugitif, tu seras sur la terre. C'est celui qui ne peut plus planter sa tente. Alors il est errant et fugitif. Il y avait donc les deux, le travail stérile et l'impossibilité d'avoir son habitation sur la terre. L'habitation sur la terre fait qu'on fait confiance à la terre, hein. Et la terre, de temps en temps, répond à sa manière par des petits tremblements de terre. N'est-ce pas ? Mais d'habitude, on fait confiance à la terre, s'installer sur la terre. C'est lui faire confiance. Il y a comme une alliance entre l'homme et la terre. Eh bien, cette alliance fondamentale est brisée à cause de cette faute contre la charité fraternelle. Caïn dit à Yahvé, mon châtiment est trop lourd à porter. Ah, voilà ce qu'il comprend. Là, il commence à le comprendre. Hein. Il commence à comprendre la gravité de sa faute à cause du châtiment. Autrement, il n'aurait pas compris. Quand Dieu a posé d'abord, qu'as-tu fait de ton frère ? Là, il n'a rien compris. Il a voulu lui-même se justifier. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Donc, il n'a rien compris à la première correction de Dieu, qui était une correction d'amour. Bien, si tu ne comprends pas cette correction, je vais mettre maintenant une correction avec des éléments frappants. On sait très bien, il y en a qui ne comprennent pas tout simplement ce que peut dire une correction. Alors, quand on ne comprend pas ce genre de correction par la parole, on sait très bien qu'il faut prendre le martinet. N'est-ce pas ? Alors, on voit très bien qu'ici, Dieu va le prendre. Hein, il le prend, puisque c'est le sol lui-même. C'est la terre elle-même, les arguments frappants. Et alors à ce moment-là, Caïn commence à comprendre. Mon châtiment est trop lourd à porter. Subitement, il regrette. Voici que tu me chasses aujourd'hui de dessus la face du sol. L'alliance fondamentale avec le sol, avec la terre, disparaît. Et de ta face, je dois me cacher. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et alors, quiconque me rencontrera, me tuera. Alors là, c'est bien le langage mythique, hein ? Vous voyez bien, il n'y a pas de logique. Parce que normalement, il n'y a pas beaucoup de monde sur la terre. Enfin, normalement, logiquement, selon une saine logique. Tandis que si vous regardez tout simplement la réalité, on comprend très bien. La punition a porté ses fruits. Caïn comprend que sa situation est une situation limite, en raison même qu'il est un errant et un fugitif. Alors quiconque me rencontrera me tuera. Je n'aurai aucune défense. Quand on est chez soi, quand on a sa tente et sa maison, on a une défense. Quand on est un errant et un fugitif, et que son travail est inefficace, on n'a aucune défense. Il avait dit, eh bien, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça nous fait comprendre que Dieu maintient son amour à l'égard de Caïn. il veut le corriger, et il le corrige par amour, il ne veut pas le détruire. Il le corrige dans son amour, parce qu'il l'aime. Il veut que Caïn comprenne. Et c'est pour ça que le rendant fragile, en le mettant dans cet isolement, c'est Dieu lui-même qui va le garder, malgré la faute. Voyez la miséricorde de Dieu. C'est un des lieux les plus étonnants, ça. Parce que Dieu corrige sévèrement, hein, c'est vrai, hein, il corrige sévèrement. Mon châtiment est trop lourd à porter. Alors ça, c'est directement le châtiment que Caïn porte, c'est trop lourd, c'est impossible. Et quand il dit alors qu'il est désarmé, qu'un autre pourra le tuer, là, Dieu devient le gardien. Si Caïn n'est pas le gardien de son frère, Dieu reste gardien de Caïn. Malgré sa faute, quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Alors ça, c'est aussi très fort pour voir que c'est Dieu seul qui juge. Et les hommes n'ont pas à juger. Ils peuvent juger sur des choses secondaires, hein, les accidents de voiture. N'est-ce pas ça? Ils peuvent juger là-dessus des choses tout à fait secondaires. Mais ils ne peuvent pas juger sur les choses profondes, sur les intentions profondes du cœur. Ça échappe. Quiconque tuera Caïn, cette fois subira la vengeance. Parole très extraordinaire de Dieu. Ça. Cette fois, ça veut dire hein, infiniment plus. Et c'est Dieu lui-même qui défendra Caïn. À sa manière. Et Yahvé mit un signe sur Caïn pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrerait. Dieu entre dans la non-logique de Caïn et montre qu'il y met un signe. C'est le premier sacrement. C'est le premier sacrement. Et il y avait mis un signe sur Caïn. Sacrement de salut. Sacrement de protection. Pour que ne le frappe pas quiconque le rencontrera. Caïn se retira loin de la face de Yahvé. Il n'a pas compris cette alliance. Il aurait pu à ce moment-là dire, mais tu es merveilleusement bon. En face de cette attitude d'orgueil, de jalousie, toi, tu me gardes. Eh bien non. Il se retira loin de la face de Yahvé. Il habita au pays de Nod, à l'est d'Éden. Ça, c'est le petit élément géographique qui n'a pas un intérêt énorme. Laissons-le aux exégètes, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un petit élément géographique. Ça n'a pas... Je ne crois pas qu'il faut regarder au point de vue étymologique la signification profonde de Nod, pays inconnu. Son nom rappelle Nad, fugitif. Possible. Il est fugitif, donc il crée un pays fugitif. C'est possible. Éden, ça c'est autre chose. C'est à l'est de l'Éden. Il ne retourne pas à l'Éden, il ne peut pas. Errant, les errants rendent tout le monde errant. C'est peut-être ça que ça veut dire. Hein. C'est la géographie humaine dans son sens inverse, vous voyez. Dans la géographie humaine, on étudie en fonction de la géographie comment l'homme se transforme. Ça m'a toujours beaucoup frappé que dans des pays très beaux, il y a des gens laids. C'est cru, la géographie humaine. Tandis qu'il y a dans des pays qui sont laids, des gens très beaux. Ça existe, ça, c'est, je viens de le reconnaître. C'est curieux, ça, c'est très curieux. Donc, au point de vue de la géographie humaine, l'élément ici est inverse. C'est l'homme qui crée son milieu. Des animaux qui créent leur coquille. Et c'est l'homme qui crée son milieu. Même si on habite un couvent qui n'est pas splendide, n'est-ce pas ? On peut le rendre beau. Et on le rend beau du fait même qu'il est utilisé pour la sainteté. L'usage en vue d'une fin fait que ça devient beau. C'est curieux, cette petite note tout à fait particulière. Hein. Il se retira loin de la face de Yahvé. Donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la miséricorde. Il ne comprend pas. Il reste dans sa jalousie. Il est errant. Alors, il habita au pays de Nod. Alors, si Nod veut dire vraiment Nad, bien fugitif, c'est ça. Il crée autour de lui un milieu fugitif. Et c'est un peu vrai, ça. Celui qui a perdu la contemplation réalise autour de lui un monde fugitif. Vous voyez, au fond, l'homme errant d'aujourd'hui crée un monde fugitif. L'homme contemplatif crée des cathédrales. Aujourd'hui, on ne crée plus de cathédrales, on crée des maisons pour 30 ans, fugitifs, précaires, tout est précaire. Et on doit créer des choses précaires, faut pas. On vit un monde précaire, parce qu'on est dans cette précarité. Tandis qu'au contraire, ceux qui étaient des contemplatifs réalisent des choses qui ont une fixité, un milieu contemplatif. Je crois qu'on peut le dire, vous voyez ? Je crois qu'on peut le dire, ça. Parce que c'est quand même ça qui nous est montré. Il y a cette, donc, Dieu qui se éveille, c'est très riche, hein, ce second péché, c'est très riche, hein, dans le point de vue de la manière dont Dieu le regarde, et donc Dieu veut nous faire comprendre la gravité de la jalousie. La gravité de la jalousie. N'acceptons jamais la jalousie. C'est pas commode, hein, c'est sûrement pas commode. Je me souviendrai toute ma vie, cette parole d'une mère d'une mère qui me racontait cette petite histoire. Dans les familles nombreuses, vous savez bien, il y a facilement des jalousies. Les psychologues le disent aujourd'hui avec beaucoup d'élégance. C'est très vrai. Alors, ils étaient quatre. Le père était mort à la guerre. Alors, tout revenait sur la mère. Et alors, l'avant-dernière était très jalouse de la petite dernière. La petite dernière était particulièrement aimée puisque elle était née un mois avant la naissance, avant qu'on sache que le père était mort sur le front. Alors forcément, il y avait beaucoup de motifs d'affection. La dernière présence. Alors elle était terriblement jalouse, et elle le disait à sa mère. Alors sa mère avait simplement dit, comme une bonne mère chrétienne, « Ah non, faut pas être jaloux. C'est très laid d'être jaloux. Chaque fois que tu es jalouse, tu enfonces une petite épine dans la tête de Jésus. » Et la petite avait reçu ça avec beaucoup d'effroi. À partir de ce moment-là, elle ne s'accuse plus jamais de jalousie. Sa mère dit, des chances qu'elle n'ose plus. Alors au bout de 6 mois, elle lui dit, tu n'es plus jamais jalouse ? Ah, la petite regarde sa mère. Mais maman, tu m'as dit que c'était enfoncer l'épine dans la tête de Jésus. J'aime beaucoup trop Jésus. Je trouve ça très très beau. Ça fait comprendre, hein. C'est par l'amour qu'on corrige la jalousie. C'est exactement ce que Jean-Baptiste dit dans son langage, quand il voit ses disciples jaloux, il parle de l'époux. Il est l'ami de l'époux. La seule manière de guérir de la jalousie, c'est de regarder la jalousie de l'époux. C'est-à-dire regarder la jalousie du Christ pour nous. Nous sommes aimés jalousement par le Christ, puisqu'il est notre époux. Parce que si nous sommes aimés jalousement et que nous vivons un peu de sa jalousie, alors à ce moment-là, ça nous est égal. Que d'autres l'aiment, tant mieux. On est très heureux, il n'y a plus besoin de jalousie. Il n'y a plus besoin d'entretenir. On pourra toujours être tenté de jalousie. La bête est tapie. N'est-ce pas ? Et ça, c'est très vrai. Et les communautés sont des laboratoires pour que la bête soit tapie. C'est des laboratoires à l'épanouissement. Et quand les communautés sont chaudes, c'est les sphères chaudes dans lesquelles, de fait, la jalousie pousse avec une rapidité extraordinaire. Mais au moins, elle pousse très vite. C'est beaucoup moins dangereux. Parce qu'on s'aperçoit tout de suite. Tandis que quand la jalousie pousse lentement, on ne s'en aperçoit pas. Alors ça, c'est des sphères moins chaudes. les communautés froides entretiennent une jalousie qui pousse très lentement. Et alors au bout de 20 ans, 30 ans, hein, alors à ce moment-là, c'est effrayant. Et vous savez, on a toujours la possibilité de se venger du point de vue de la jalousie par la langue. On met Joseph dans le puits. On ne le tue pas, mais on le met dans le puits. Et on le vend aux Égyptiens. Alors il est bien vendu.